Bonjour, donc je suis Marie Eklund et j'ai grandi à mi-chemin entre la France et le Canada, à Vancouver plus particulièrement. Et depuis que je suis petite, moi je suis très curieuse, donc j'ai besoin de comprendre les choses qui m'environnent. Et j'aime bien la structure, donc j'ai besoin de créer des petits modèles. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de mathématiques. J'ai fait beaucoup d'informatique, ça a été mes études derrière, parce qu'une fois qu'on a compris un problème, on a envie de pouvoir créer, faire des choses, agir et trouver des solutions aux problèmes qu'on a rencontrés. Et en fait, ça m'a conduit à devenir informaticienne, à commencer ma carrière en tant qu'informaticienne à New York chez JP Morgan. C'était fin des années 90, je suis née en 1975, donc c'était pile au début de ma vingtaine, mais c'était surtout le démarrage de cette grande vague de transformation de l'économie. Et donc j'y ai participé d'abord en tant qu'actrice, et puis j'ai pas trouvé beaucoup de sens en fait à faire ça. Donc je suis revenue en France, j'ai fait des études d'économie, et puis je suis rentrée dans le monde du capital risque vraiment au tout démarrage de la French Tech et de ce monde du capital risque en l'an 2000. Et puis depuis l'an 2000, je m'épanouis dans ce secteur où j'essaye vraiment de comprendre c'est quoi un bon investisseur, comment est-ce qu'on peut accompagner les entrepreneurs de la meilleure manière possible pour qu'eux puissent régler les problèmes qu'ils essayent de régler avec leur entreprise. Et puis au fur et à mesure, finalement, j'ai essayé de m'attaquer aux plus gros problèmes. Et aujourd'hui, je suis fondatrice d'un fonds qui s'appelle 2050 et qui essaye de façonner un futur fertile, c'est-à-dire un futur dans lequel on va tous pouvoir manger de manière saine, on va pouvoir habiter la terre et produire de manière durable, qu'on va pouvoir faire évoluer les modèles éducatifs pour que tout le monde puisse y contribuer, qu'on va pouvoir prendre soin de sa santé au quotidien et puis remettre la confiance au cœur des économies avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui permet de financer la transformation sur le long terme, et puis un système médiatique et d'intelligence artificielle qui permet que des démocraties fonctionnent. Donc voilà, c'est moi. Je ne pensais pas du tout devenir entrepreneur un jour. C'était pas dans ma, comment dire, c'était pas dans mon imaginaire. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, c'est pas quelque chose que j'avais nativement en moi, mais j'avais ce côté devoir résoudre des problèmes. Et donc je pense que mon premier pas en fait vers l'entrepreneuriat, ça a été quand j'ai monté France Digital, qui était une association en 2012, qui est une association qui unissait entrepreneurs et investisseurs du numérique pour résoudre les problèmes systémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, comme en fait, quand j'ai creusé au début de ma carrière vraiment comment est-ce que je pouvais être le plus utile possible pour les entrepreneurs. Et ce que je sais faire, donc, c'est modéliser des problèmes et puis instancier des solutions et puis pas avoir peur d'itérer sur ces solutions pour les améliorer et puis parce qu'on n'a jamais bon du premier coup. Et en fait, c'est ce que j'ai amené comme compétence aux entrepreneurs et aux conseils d'administration auxquels je siégeais. Et en fait, ce que j'ai compris assez vite, c'est qu'il y a beaucoup des problèmes que les entreprises que j'accompagnais rencontraient qui ne pouvaient pas être réglés au niveau de l'entreprise elle-même. Comme par exemple le manque de talents digitaux en Europe. Même quand j'étais au board de Criteo, qui était le grand succès de la French Tech à l'époque, Criteo tout seul ne pouvait pas régler ce problème-là. Ou le manque de capitaux de croissance, donc pour accompagner des entreprises dans leurs dernières étapes de croissance. Pareil, ce n'est pas Criteo tout seul, ou les problèmes de réglementation sur le Digital Single Market, faire un marché européen unifié, etc. Criteo tout seul n'y arrivait pas et j'avais la même chose à tous les conseils d'administration auxquels je participais. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, on doit agir au niveau écosystème. Si on veut s'attaquer à ces problèmes-là qui empêchent toutes les entreprises du secteur d'avancer et de croître et d'apporter et de résoudre les problèmes auxquels elles s'attaquent. Et donc à ce moment-là, j'ai cofondé France Digital, que j'ai coprésidé pendant 3 ans, pour justement avec cet objectif-là, c'est-à-dire d'abord il faut qu'on partage des bonnes pratiques entre nous pour faire écosystème, collaborer et puis avoir plus de puissance de frappe, mais aussi pour pouvoir parler au gouvernement français d'une seule voix ou à la Commission européenne d'une seule voix et dire ça c'est un énorme problème qu'on doit régler ensemble, etc., etc. Et c'est en faisant France Digital que finalement je suis sortie du monde de la tech, quelque part, enfin de ma bulle start-up, on va dire. Et puis j'ai rencontré des patrons de grands groupes, d'entreprises familiales, des PME de province. Et puis j'ai conseillé le gouvernement au sein du Conseil national du numérique sur des problématiques de santé, sur la stratégie sur l'éducation. Donc ça m'a ouvert complètement les chakras. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des beaucoup plus gros problèmes que ceux auxquels les startups du numérique s'attaquaient, qui étaient laissés libres, et que la manière dont la finance ou dont le capital risque les adressait était, à mon sens, pas satisfaisante. Et c'est pour ça, finalement, que je suis devenue, moi, une entrepreneuse de la finance, en voulant proposer des nouveaux types de produits financiers qui accompagnaient beaucoup mieux la transformation durable de la société et de l'économie que ce que je pense que le capital risque modèle historique fait. Donc 2050, c'est une société, c'est une entreprise, mais qui a plusieurs particularités. Donc la première, c'est qu'elle gère un fonds, qui est un fonds d'investissement qui accompagne des entreprises qui vont accompagner la transformation durable de leur filière sur le long terme. Donc ça, c'est la première brique. On gère un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement a une particularité importante, c'est qu'il est ouvert, c'est-à-dire que le modèle historique du capital risque, ce sont des fonds fermés à 10 ans. Ça veut dire qu'on accompagne les entreprises sur une durée de 7 à 8 ans. Et puis après, comme le fonds se termine, on doit rendre l'argent aux investisseurs. Et donc, quelque part, on force la sortie des investisseurs. Et moi, je pense que quand on finance des entreprises qui créent des nouveaux types de matériaux, quand on finance des entreprises qui vont faire de l'économie circulaire ou n'importe quel type d'entreprise, ce ne sont pas forcément des cycles à 7-8 ans qu'il faut pouvoir imposer. C'est pas le modèle d'hypercroissance à tout prix, on va dire, qui est un modèle très importé de la Silicon Valley, qui est le plus adapté si on veut tirer le plein potentiel du développement de ces entreprises-là sur le temps, parce qu'on a besoin de leur donner ce temps-là. Donc, par exemple, on est investisseur d'une entreprise qui s'appelle Pebble en Suède. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des roches minérales qui sont l'olivine ou le basalte, qui ont une propriété naturelle qui est qu'au contact de l'air, elles arrivent à stocker du CO2. Et en fait, sous condition de pression et de chaleur, en mettant ces roches-là sous forme de poussière, on augmente la surface de contact avec l'air libre. Et en mettant d'autres types d'intrants, ce qu'on arrive à avoir en sortie de chaîne, c'est un matériau qui remplace la pierre ponce dans la fabrication du ciment. Donc en bout de chaîne, on a un ciment qui stocke du CO2 qui a été émis et qu'on a récupéré dans l'air, plutôt que d'en émettre lors du processus de fabrication. Voilà. Et donc cette société-là, elle est clairement, on a investi en 2022, elle a déjà 3 ans, on a atteint un niveau d'industrialisation où on sait produire à peu près 3 tonnes par jour de matériaux, enfin de matériaux pour construire ce ciment-là. Mais on voit bien que si on veut arriver à. Ils font toujours pas de chiffre d'affaires parce que, enfin, ils en font un petit peu, mais pas du tout au niveau auquel on devrait être pour être rentable. Et donc, il faut laisser le temps, financer la première usine, voire la deuxième. Donc, pour ce type d'entreprise-là, on a besoin de plus de temps et c'est clair qu'on a besoin de changer le produit financier. Voilà. Donc, la première chose de 2050, c'est qu'on gère ce fonds qui va investir dans des entreprises qui sont pour nous les champions de demain. Donc tout au long de la chaîne de valeur, de leur chaîne de valeur, donc pas uniquement des nouveaux types de matériaux, mais des nouveaux types d'infrastructures, du logiciel, de solutions logicielles d'optimisation ou d'intelligence artificielle, ou bien de l'économie circulaire, donc vraiment cette idée de pouvoir avoir une bascule sur l'ensemble d'une chaîne de valeur, parce que ça, c'est une grande différence entre le numérique et le durable, c'est qu'on a besoin que nos fournisseurs changent. On a besoin que les clients adaptent leur mode de consommation. Et donc, il faut vraiment penser le financement de la transformation sur une logique de chaîne de valeur. Donc, ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement de 2050, c'est que de la même manière que les entreprises de la tech rencontraient des nœuds systémiques, ces fameux problèmes réglementaires ou de partage de bonnes pratiques qui sont nécessaires ou faire avancer la recherche, c'est la même chose sur toutes les filières sur le durable. On ne sait pas aujourd'hui comment construire une entreprise qui soit nette carbone. Donc, on ne sait pas mesurer son empreinte environnementale d'une manière efficiente, on ne sait pas mesurer son risque social. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore faire. Et donc, pour ça, on a besoin de financer de la recherche, de créer des nouvelles bonnes pratiques, de comprendre c'est quoi les nouvelles solutions, donc à partir de ce que la science nous dit, de changer les réglementations. Et donc, pour intégrer cette action en parallèle avec le financement des entreprises, pour faire accompagner les solutions du changement du contexte dans lequel elles évoluent pour qu'ils soient beaucoup plus favorables. On dédie 10% de l'argent de nos investisseurs et la moitié de notre commission de performance à nous. Donc, bon, en gros, on finance de manière dédiée, en fait, et volontaire, c'est structuré dans le modèle, ce qu'on appelle des actifs pour l'écosystème, donc des communs, qui sont de la recherche, du savoir partagé, des plateformes ouvertes de données ou des outils partagés, ou bien du plaidoyer. Ah, c'est une très bonne question, parce que souvent, je me dis, ben, en fait, on est plutôt un mélange entre un fonds d'infrastructure et un fonds de capital risque. Donc, fondamentalement, on finance de l'innovation. Voilà. Donc après, c'est pas effectivement le capital risque de manière, dans sa définition, je dirais implicite. C'est beaucoup financé de la technologie, enfin de digital, enfin numérique. Et nous, on est sur des types d'innovations qui sont beaucoup plus larges que ça. Et dans le modèle, rien que le fait de se donner du temps et d'être sur un fonds ouvert où on a créé une couche de liquidité pour que nos investisseurs puissent être patients, parce qu'il faut donner de la liberté aux entrepreneurs pour aller au bout de leurs ambitions, mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que les investisseurs aient un retour sur investissement. Qui soit satisfaisant pour eux et qui ne soit pas uniquement la satisfaction du devoir accompli, on va dire. Donc, qu'il soit vraiment un vrai retour sur investissement financier. Nous, on est convaincus qu'on finance les champions de demain, mais on ne peut pas demander aux gens d'attendre 20 ans. Ce n'est pas du tout ça. Donc, on a vraiment pensé un produit où, au bout de 6 ans, on a un retour annuel, de manière à ce que l'argent travaille, en fait. Et donc, on ne se pose pas la question, on peut attendre. Parce qu'on a un retour sur investissement régulier. Mais donc, je suis d'accord, on n'a pas encore trouvé la vraie qualification. Et c'est le monde de la finance, c'est un monde de classe d'actifs. Donc, le capital risque est un actif. C'est celui dont on se rapproche le plus. Est-ce qu'à terme, ce sera une nouvelle catégorie? Je ne sais pas. C'est 2050. C'est très clairement ça, parce que c'est en fait ce qui est à la fois passionnant je dirais le plus complexe, c'est que la manière dont la finance fonctionne, c'est vraiment en regardant le rétroviseur. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme de l'intelligence artificielle. On regarde ce qui a marché dans le passé, marché étant gagné beaucoup d'argent, et on prend des décisions aujourd'hui à partir de ces apprentissages-là. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un, on reproduit les modèles passés. Et donc, s'ils ont créé des problèmes, ben, on va reproduire les problèmes. Mais deuxièmement, on reproduit les modèles qui ont fait gagner le plus d'argent. Donc, souvent, on est dans une logique d'accélération parce que ce qui a permis de dégager le plus de marge financière, il y a pas mal de cas de figure dans lesquels c'est au détriment des ressources naturelles, où ça a un impact social qui n'est pas forcément positif, etc. Et donc, on ne peut pas, si on veut s'attaquer à la résolution des problèmes que ce système a créés, continuer à prendre les décisions de la même manière. Voilà. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on s'appelle 2050, c'est qu'on regarde le futur. On se dit, bon, ben, c'est quoi la société dans laquelle on veut vivre? Parce qu'il y a une autre chose que moi, j'ai. Non seulement apprise, mais vraiment que je ressens profondément pour avoir manipulé et travaillé l'argent depuis 25 ans maintenant, c'est la puissance de l'argent. En fait, l'argent, c'est de l'énergie, c'est-à-dire que si on veut, si on met beaucoup d'argent pour aller par là, il y a beaucoup plus de chances que la société elle aille par là que si on met beaucoup d'argent pour aller par là-bas. C'est beaucoup plus autoréalisateur qu'on ne croit. C'est pas du tout un pari où on met de l'argent dans une machine à sous à Las Vegas et où la chance va nous dire si on a gagné ou pas. En fait, on façonne le futur. Et donc, la question d'après, c'est à quoi on veut contribuer. Donc, nous, 2050, on est parti de ça. On est parti de c'est quoi notre compas? D'où ce que j'ai dit au début, bah en fait, nous, on veut contribuer à ces cinq essentiels qui sont que tout le monde puisse manger sainement, qu'on puisse vivre et produire de manière durable, enfin, les cinq objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, ce qu'on fait du coup, parce que comment on prend des décisions du coup, si on ne peut pas regarder le passé, ou en tout cas, eh bien, on regarde le présent. C'est-à-dire qu'on s'appuie, nous, sur la science. Et donc, on a beaucoup de partenariats scientifiques grâce à cette logique de construction des actifs écosystémiques, où on comprend bah, c'est quoi aujourd'hui les causes du réchauffement climatique, quelles sont les conséquences sur les filières, hein, c'est-à-dire les limites planétaires. Bah, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir un accès raréfié aux ressources naturelles, comme l'eau, mais aussi comme bah, ce qu'on voit sur la filière cacao aujourd'hui, ou sur les métaux rares. Donc, il y a beaucoup de. Donc, on comprend en fait les limites planétaires dans lesquelles on vit et puis dans lesquelles on travaille. Et puis on les intègre dans notre réflexion. On essaye de trouver les solutions qui permettent de régler les problèmes qui existent en fait. Et voilà, et ça c'est grâce à la science. Mais vraiment, c'est là où je me sens le plus utile, hein. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai fait dans toute ma carrière, hein, qui, je pense, peut avoir l'effet. Qui peut résoudre le plus de problèmes. C'est très certainement de monter 2050 et de ne pas rogner sur son ambition de vraiment apporter un changement systémique ou de proposer une alternative complète, on va dire. Voilà. Mais c'est le résultat de décisions que j'ai prises dans ma carrière qui m'ont toujours, comment dire, fait aller vers un alignement personnel de plus en plus précis ou de plus en plus intense, quoi. C'est-à-dire que toutes les décisions que j'ai prises, comme fonder France Digital, quitter le fonds dans lequel j'étais à l'époque pour monter une première tentative de. Enfin, donc toutes ces décisions-là, à chaque fois, ça a été une décision de me rapprocher vers ce qui constitue mon propre alignement personnel. Et effectivement, on va dire que c'est la plus significative. Donc il y a un premier angle qui est, je pense que les produits financiers ne sont pas adaptés. Et je vais élaborer, c'est-à-dire que la finance oublie que c'est une industrie en tant que telle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des produits qui sont adaptés à des besoins. Aujourd'hui, le besoin des entreprises, c'est d'être robuste, c'est-à-dire de pouvoir avoir une chaîne de valeur ou une supply chain, enfin qui soit prévisible. C'est de pouvoir penser sa croissance dans le temps à l'intérieur des limites planétaires, dans un monde géopolitique où ça change un peu tous les jours. Donc de se penser en robustesse et en résilience. Et aujourd'hui, le modèle de financement est un modèle qui est adapté à la transformation digitale et non pas à la transformation durable. Donc moi, je pense qu'il faut penser des nouveaux types de produits pour leur permettre de se transformer de cette manière-là. Et pour arriver à faire ça, il faut qu'on puisse valoriser pas uniquement la performance financière dans la performance des entreprises, mais aussi la performance environnementale et sociale. C'est-à-dire accepter le fait qu'une entreprise, en fait, elle a un impact social et environnemental, qu'il soit positif ou négatif, et que c'est important de pouvoir la quantifier pour pouvoir être en décision quand on fait un investissement qui soit une décision complète, en fait, dans une visualisation complète qui permet aussi de gérer les risques sur le long terme, puisque la finance est un risque-rendement et pas uniquement du rendement. Et donc cette logique de pouvoir bien mesurer les risques environnementaux et les risques sociaux et la performance environnementale et sociale en plus des risques financiers et la performance financière, pour moi, est essentielle si on veut arriver à avoir et créer ces nouveaux types de produits financiers. Donc pour moi, ça c'est la première des choses, c'est créer les produits financiers qui permettent de faire ça. Et je rajouterai une dernière chose pour vous donner un exemple précis. En fait, dans tous les sujets de réchauffement climatique, il y a un acteur qui joue un rôle majeur dans ça, c'est les océans. Donc les océans captent à peu près 30% du CO2 tous les ans. Ils font vivre 3 milliards de personnes sur la planète. Voilà, c'est la source de protéines, en fait, les poissons, etc. Et c'est particulièrement les pays, enfin, les pays du Sud. Et puis, c'est 50% de l'oxygène qui est produit. Enfin, c'est une économie. 80% des biens qui circulent sur la planète, c'est aussi sur l'océan. Donc, c'est une économie où on a besoin que les océans soient en bonne santé pour que on puisse continuer à survivre sur cette planète, et en particulier les 3 milliards de personnes qui en dépendent pour se nourrir. Et en fait, aujourd'hui, les types de produits financiers qu'on a, comme on a des crédits carbone, mais on n'a pas de crédit biodiversité, eh bien souvent, on n'a pas le niveau de rentabilité sur des produits historiques qui permettent de financer cette transformation-là. Et donc, dans l'univers de l'économie bleue aujourd'hui, on a ce qu'on appelle de la blended finance. C'est des nouveaux types de produits qui mélangent à la fois de la dette, de l'action ou de la philanthropie. Et ou alors des modèles assurantiels. Donc en fait, on est un modèle où on mélange plusieurs choses à la fois pour s'adapter en fait aux contraintes de l'écosystème dans lequel on navigue. Et la deuxième chose que je dirais sur ce qui manque sur le financement, c'est que, et je vais reparler de Pebble du coup, c'est que quand nous on a financé Pebble au tout début, bon, il fallait d'abord démontrer que la technologie marchait et qu'on était en capacité d'atteindre un niveau d'industrialisation qui permettait d'envisager la production d'une première usine, en fait, la construction d'une première usine. On a atteint ce stade-là, et puis l'année dernière, on a été chercher 25 millions d'euros de capital en plus pour pouvoir financer l'étape d'industrialisation d'après, qui est celle qui est nécessaire pour démontrer aux banques qu'on a la capacité de monter une usine et d'avoir une volumétrie en centaines de milliers de tonnes. Voilà. Et pour faire ça, ben en fait, de toute manière, comme c'est une nouvelle technologie, il n'y a pas un banquier qui va financer avec de la dette parce que c'est toujours pareil. En finance, on a besoin des données passées. Et puis, si on ne les a pas, ben, comment on fait? Et donc, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on sait, c'est que dans ces cas-là, ce que les banquiers demandent, c'est d'avoir des clients qui préachètent la production. Et ces clients-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a intégrés dans la levée de fonds. Et donc, quand on a été chercher les 25 millions d'euros, délibérément, il y a une dizaine de millions d'euros qui ont été réservés à l'aval de la chaîne de valeur. Et donc, il y a Holcim, qui est le principal acteur du ciment européen, qui a investi dans Pebble, et aussi Amazon Climate Pledge, qui a investi. Et les deux se sont en parallèle comités à. Enfin, ont émis un intérêt, donc on avait déjà prénégocié les termes pour qu'ils préachètent la production, et là on va équiper des data serveurs d'Amazon pour tous les nouveaux data serveurs d'IA. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est que Amazon préachète le matériau Pebble qui devient du ciment grâce à Holcim, et ça nous permet d'aller chercher les banquiers. Donc pourquoi c'est important pour l'idée de qu'est-ce qui doit changer en finance? C'est que je pense qu'il faut que la chaîne de valeur se réunisse aussi pour financer ses propres innovations et avoir intérêt à le faire et accélérer le mouvement. Je pense que le plus grand risque reste le réchauffement climatique parce que les climato-sceptiques, en fait, ils vont devoir faire face à la réalité des faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prévisions des Nations Unies, c'est qu'il y a 40% des besoins d'eau industriels hein, qui ne vont pas être satisfaits en 2030. 2030, c'est dans 5 ans. 40%, c'est beaucoup. On a vu là sur le cacao, il y a une volatilité où ça a pris 400% de son prix en quelques semaines, en fait. On a vu aussi que la sécheresse à Taïwan, en 2022, je crois, en fait, elle a eu un impact sur l'industrie automobile européenne dont elle se remet à peine. Donc, on a, qu'on soit, en fait, ce à quoi on croit finalement est assez peu important puisqu'il va y avoir une réalité des faits à laquelle les entreprises vont devoir s'adapter. Et cette réalité, c'est qu'on a une rareté des ressources naturelles qui est en cours en fait, qu'elle va entraîner une hausse des prix, que il y a déjà une volatilité des prix sur les ressources. Enfin, il y a beaucoup de ressources qui vont être considérées comme géostratégiques ou géopolitiques, sur lesquelles il peut y avoir une augmentation des prix juste avec des hausses de tarifs. Hein. Et puis il y a une incertitude liée à la production qui va naître de tous les aléas climatiques qui vont faire qu'aujourd'hui, n'importe quel PDG d'entreprise doit se poser la question de est-ce que le business plan que je suis en train de construire dans les 5 ans, il est résistant aux aléas climatiques? Est-ce qu'il est robuste par rapport à mon... Est-ce que j'ai accès aux ressources dont je vais avoir besoin de manière assez sécurisée? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation des prix là-dessus qui pourrait faire complètement diminuer mes marges? Donc, je pense que on est dans une phase, en fait, de l'économie. Où c'est même pas un débat, en fait, la question c'est comment on s'adapte au monde qui est là. C'est gérer le tempo. C'est-à-dire que, en fait, quand on est entrepreneur, l'entreprise, elle a un pouls. Et ce pouls, il émet des tensions, des opportunités. Et il faut savoir les entendre. Et gérer le tampon. Donc il y a des moments où il faut accélérer, il y a des moments où il faut plutôt aller en profondeur, il y a des tensions qui doivent être réglées maintenant, il y en a d'autres. Et donc c'est vraiment cette idée de gérer le tempo, mais en ayant toujours deux choses en tête. Un, pas dévier de son cap, et deux, l'analyse des tensions actuelles, et de pouvoir que l'étape d'après, en fait, le pas d'après, il doit être en résolution des tensions qu'on vit aujourd'hui, mais dans la direction du long terme. Donc, c'est toujours une alliance subtile entre ce qu'on appelle en anglais backcasting et forecasting. Voilà. Donc, c'est hyper important de jamais perdre le cap, en fait, et de toujours être en bonne connexion aux tensions qui empêchent l'entreprise d'aller aussi vite ou de grandir de la manière dont on aimerait qu'elle grandisse pour pouvoir prendre les bonnes décisions.